Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction.
La poésie nous attend dans l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 24 mai 2024, je suis au Théâtre des Minuits, encore une fois, pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission au cours de laquelle nous reviendrons sur l'actualité toute récente qui vient à peine de se terminer du théâtre autour d'un festival et de la représentation d'une pièce que j'ai eu le plaisir de voir. Tu n'es pas seul, c'était le 13 avril dernier. Et puis, on va commencer tout de suite en accueillant donc un membre de la troupe, Mishka.
Bonjour.
Et une bénévole de la troupe aussi, Hélène.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors, on va commencer cette émission dans le désordre. Tout sera remis dans l'ordre au montage. En tout cas, on va essayer de faire notre maximum pour que les auditeurs, auditrices puissent y retrouver dans l'actualité très chargée des minuits. En préambule à cette émission, je vous propose d'écouter une lecture d'un texte de Valérie Solanas, Scum Manifesto, tel qu'il a été lu en scène par Stéphanie lors de la représentation « Tu n'es pas seul ».
Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes. Ou d'ailleurs sans l'aide des femmes. Et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y, mâle, n'est qu'un gène X, femelle, incomplet. Une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moi. C'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. Cellules complètement isolées, incapables d'établir des relations avec qui que ce soit. Ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis. Ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit, ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour la fonction des talons. À supposer qu'il possède une compétence purement technique, bien rare en vérité, on ne peut déceler aucune sensualité, aucun humour dans sa façon de s'envoyer en l'air. Quand ça lui arrive, il culpabilise. Il est dévoré de honte, de peur et d'angoisse. On prétend souvent que les hommes utilisent les femmes. Les utilise à quoi? En tout cas, sûrement pas au plaisir. Sa recherche frénétique de compensation, parce qu'il n'est pas une femme, combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de la guerre.
On va commencer tout de suite peut-être par l'histoire de cette pièce « Tu n'es pas seul ».
Alors, Tu n'es pas seul, effectivement, a une grande histoire, parce que c'est un spectacle qu'on a créé en plusieurs étapes. Au départ, ça devait être une pièce de théâtre forum sur les violences faites aux femmes. On a commencé à travailler dessus en 2019. Et pendant le Covid, je me souviens, on a rencontré en visio, du coup, le planning familial, le CIDFF 45, AVL 45, donc trois associations qui accompagnent des victimes de violences. C'était des juristes qu'on a rencontrés qui nous ont expliqué les processus, le cycle de la violence, le violentomètre, etc. suite à cette rencontre, nous, on a discuté, etc. On a voulu commencer à créer sincèrement un théâtre forum et très vite, on s'est aperçu que le sujet était bien plus vaste. Et aussi, on s'est posé la question de la pertinence, c'est-à-dire que déceler les violences, en fait, très vite, on arrive aux agressions. Et on s'est dit, oui, c'est intéressant, mais ce qui nous paraissait plus intéressant, ou en tout cas être plus notre chemin, c'était de voir pourquoi ces violences existent. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont là ? Et on est parti du coup sur la création d'un spectacle composé de plein de scènes, juxtaposées, un peu comme des clips, les uns après les autres, pour donner une sorte de panorama de notre société sur ces questions des violences faites aux femmes. Et puis finalement, on est arrivé même plus largement aux questions, pas que les violences faites aux femmes, mais les discriminations faites aux minorités de genre, etc. etc.
Et je crois que vous avez influencé la troupe.
Alors, je ne
Hélène,
crois pas.
Non.
Je les ai influencés.
Alors, du moins, il me semble.
Alors, si je les ai influencés, je les ai influencés dans l'avenir de cette pièce. C'est-à-dire, quand ils l'ont joué au départ, je n'ai pas pu être là. Et donc, j'en ai été privée. Et donc, par contre, autour de moi, ils s'en parlaient. Et donc, j'ai fini par dire à Arnaud, un des membres de la troupe, d'ouvrir et de créer le débat à partir de cette pièce, parce que je trouve que, en particulier sur le genre, il se dit beaucoup de choses, mais presque c'est communautaire. C'est au sein de ce qu'on connaît, qui partage le même problème ou pas, le même devenir ou non, c'est toujours... j'allais dire presque le même âge, le même milieu. Et moi, je trouvais que pour partager, il faut ouvrir et en parler, parce que les gens de mon âge, on n'est pas habitué à ce vocabulaire, on n'est pas habitué à réfléchir sur notre genre, même si, au vu de ce qu'ils m'ont dit, je pense que j'aurais dû réfléchir à mon genre bien avant que de porter celui qu'on m'a donné.
Et c'est ce que permet le théâtre, hein, la diffusion d'idées.
Tout à fait, je pense que le théâtre, on dit spectacle vivant. Et c'est vivant, non pas parce qu'on fout de la lumière sur un cyclo, c'est vivant parce que cela vous touche, cela vous poursuit, vous partez avec une idée, vous partez avec un sentiment. C'est ça le théâtre, c'est ça le spectacle vivant. Et c'est indispensable, eh bien, à la démocratie. C'est indispensable à la prise de parole, à la responsabilité que nous avons tous les uns envers les autres.
Alors, de nombreux tableaux qui se succèdent, une entrée en matière très simple, hein, ce sont des enfants qui jouent à genrer justement des patates. C'est comme ça que commence la pièce.
Hein. Oui, oui, des enfants ou pas forcément en fait. Mais effectivement... cette scène, elle est venue parce qu'on me disait « Ah ouais, Mishka, tu pourrais... » sur le genre, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, j'avais pas envie de faire un témoignage, même si finalement, il y en a un aussi dans le spectacle. Mais j'avais envie de traiter cette question qui est souvent vue de manière lourde et dramatique, parce que les conséquences sont dramatiques. Mais en fait, dans l'absolu, le genre, c'est une étiquette qu'on colle. Et finalement, c'est comme ça qu'a germé l'idée des patates.
Une entrée en matière qui montre, en tant que spectateur, la volonté justement de partir voilà, dans une sorte... J'ai vu ça comme un jeu d'enfant, mais dans un jeu qu'on peut voir encore aujourd'hui, je suis sûr, dans les cours de maternelle... garçon, bleu, fille, rose, moustache, moustache rouge à lèvres, oh mince, on ne sait pas, intersexe, même la question des intersexes, hein, quand on parlait d'éduquer peut-être les générations, c'est vrai que ce sont des sujets qui n'étaient pas forcément abordés il y a 30, 40, 50 ans.
Alors, non seulement ce sujet particulier n'était pas abordé, mais les autres non plus. Comme ça, quand on dit rien, on est tranquille. Donc, effectivement, le jeu des patates, je crois que malheureusement... si ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est-à-dire que on voit souvent les gens dire « Ah oui, mais c'est une fille. Oh, bah, cette fille, elle ressemble à un garçon. » Ça, c'est des adultes, j'allais dire, qui disent des choses comme ça. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, le paraître a beaucoup plus de place encore que l'être. Et ça, quand même, c'est mordant.
Et puis, on entre dans cette succession de tableaux qui s'enchaînent sans se ressembler forcément les uns avec les autres. Des tableaux qui alors se passent tout le temps dans des sociétés quand même occidentales au niveau de l'espace.
On est parti de choses qui nous sont propres, enfin qui sont relatives à notre vécu. On n'a pas forcément, par ce spectacle, cherché à aller ailleurs. Souvent, on aime bien, on parle depuis notre chaise. Notre chaise, voilà, c'est celle-ci. On ne va pas s'en inventer une qu'on n'a pas. Et aussi, juste pour préciser, l'ordre des scènes suit un fil évidemment émotionnel, mais aussi, en fait, on s'est appuyé, comme sur notre spectacle Une Algérie, sur la structure de la tragédie antique, avec au début le parodos, c'est-à-dire la scène est vide, on la remplit, puis après trois actes, avec à chaque fois, au début de chaque acte, les Cassandres, les scènes de massacre. Alors là, ce n'est pas des massacres à proprement parler, mais voilà, on voit des injustices, etc. Et puis, à la fin de chaque acte, il y a les Stasimons, où on s'amuse, on rigole, enfin plus ou moins. et à la fin du spectacle, il y a l'Exodos, la scène est vide. Et on a repris cette structure de la tragédie antique parce que, surtout là, et c'est comme sur notre spectacle Une Algérie, vu que ce sont des scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont aussi dans des styles de représentation différentes, la structure de la tragédie grecque donne à une force émotionnelle. C'est-à-dire qu'au début, on voit les scènes, elles passent les unes après les autres, et petit à petit, il y a quelque chose qui vient se nouer. Et cette tension-là, on trouvait qu'elle était juste par rapport aux propos et au spectacle.
Mais oui, effectivement, donc vous parlez vraiment d'où vous êtes, en fait, de votre position, de la troupe des Minuits à la Neuville-sur-Essonne, voilà, qui regarde autour de cet espace, donc français surtout. Ça se passe majoritairement en France.
Oui, parce qu'en fait, c'est des textes, on ne sait pas que les textes de la troupe, la scène des patates, on l'a inventé nous, mais il y a des textes.
Et voilà, et vous allez piocher dans le temps jusqu'à Molière, hein, je crois, c'est la plus lointaine référence. Oui, ouais, voilà.
Probablement.
Ouais. De Molière à aujourd'hui, et parfois même, alors on a l'impression que c'était. Que vous étiez tout le temps en train de travailler dessus, puisque vous étiez encore en train de vous avez mis à jour les chiffres des féminicides pendant la pièce, ou alors vous avez fait cette intervention à un moment avec le témoignage de Jérôme du GIGL qui était passé la semaine précédente.
Oui, alors en fait c'est un spectacle qu'on tient à actualiser, c'est-à-dire qu'il y a eu une première au Centre Social en 2021, on avait basculé du Théâtre Forum vers un spectacle, puis en 2022 une création là avec la structure du spectacle tel qu'il est aujourd'hui. Et en même temps, quand on l'a repris cette année, on s'est dit, mais ce sujet, il y a tellement de choses qui ont évolué même en 2 ans. Et puis finalement, il y a des choses dont on n'a peut-être pas assez parlé. Et c'est comme ça qu'on a décidé de rajouter une scène où, pendant le festival, on a invité le GAGL 45 à venir à la bibliothèque de Puiseaux. Et t'étais là, Hélène, d'ailleurs. Oui. Et Christophe, nous a raconté l'histoire du GAGL et puis nous a parlé des intersexes, des personnes intersexes. Et en fait, on s'est dit, mais par rapport à notre sujet, c'est super intéressant parce que souvent, un des arguments sur le genre, etc., c'est de dire la biologie, la biologie, la biologie. Et on s'est dit, mais là, il y a trop peu de monde pour entendre, déjà, savoir ce que sont les personnes intersexes, que ça existe. Combien ils sont, et puis c'est une personne sur 8000, et ensuite les personnes qui vont avoir des évolutions avant on appelait ça les anomalies de genre, mais voilà, des évolutions qui ne sont peut-être pas aussi standards que ce que la médecine veut nous faire croire, c'est 15 à 20% de la population. Donc,
pour celles qui ne sont pas mutilées de force, parce que c'est un vrai problème, ça par contre, en France.
Ah bah
notamment en France, mais pas seulement, on va parler de là où nous sommes. L'assignation au genre forcé justement de ces personnes, puisqu'il faut choisir, il faut leur attribuer un...
Oui, et puis souvent c'est choisi de force, en fait les personnes c'est pas des choix conscients, il y a des opérations, c'est extrêmement lourd.
C'est quelqu'un d'autre qui choisit à la place de la personne, elle n'a pas la liberté de son choix, je précise quand même.
Et voire même des personnes qui ont été opérées sans savoir pour quelles raisons elles l'ont été. Donc, ça a des conséquences absolument dramatiques. Et cette scène-là, ce propos-là qui a été tenu à la bibliothèque, c'est vrai qu'il y avait sur cette temps de rencontre, on s'est dit, mais ouais, il n'y a pas assez de monde. Allez, on va profiter de l'écho du spectacle pour le mettre en scène, pour actualiser aussi. C'est un spectacle qui est amené à évoluer.
Très vivant. Très vivant, qui se nourrit de son temps, des actualités. Et donc, je l'ai déjà dit, avec plusieurs tableaux qui se succèdent. Et puis, l'approche de lutte contre l'approche des luttes contre les violences faites aux femmes, abordée par plusieurs prismes, avec d'un côté la violence subie. Je pense à des extraits, il y a pas mal d'extraits comme ça. Où vous mettez en scène cette violence, notamment en allant emprunter dans l'univers médiatique qui est le nôtre et de ces choses que l'on peut entendre à la radio, à la télévision ou sur Internet. Comment est-ce que vous avez fait pour récolter toute cette matière, pour évacuer, parce qu'il y a toutes celles que vous avez gardées pour le spectacle, mais j'imagine vous avez eu affaire à une sorte d'inventaire, presque un catalogue justement dans lequel vous êtes allé piocher. Comment s'est construit justement ce choix ?
Alors, effectivement, on avait énormément de matière, si bien qu'à la fin, on avait, dans les derniers temps d'écriture, on avait même une scène qui s'appelait la liste de tout ce qu'on n'a pas dit. Cette scène n'existe plus. Mais il a fallu renoncer à dire beaucoup de choses, à montrer beaucoup de choses, parce que le sujet est tellement vaste et complexe. Touche tellement de champs, aussi bien le quotidien que, effectivement, comme tu le disais, les médias, c'est infini. Et du coup, le choix de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas, finalement, ce qui nous a aidé à choisir, c'est le théâtre. C'est-à-dire que dans l'absolu, pourquoi lire cet article plutôt que celui-ci ? Évidemment, il y a quand même... Une fois qu'on a, il y a quand même des champs, voilà, des sujets, des choses comme ça. Mais c'est quand même l'émotion, le fil émotionnel qui nous a aidé à trancher. Parce que après des textes géniaux, il y en a beaucoup, et le choix est impossible.
Mais un gros travail, fait sur le son pour cette pièce.
Eh bien oui, pour une fois, on n'avait pas de musicien de plateau. Peut-être parce que si on l'a créé vite, la première mouture au centre social. Et du coup, on n'a pas fait appel à un musicien de plateau. Et puis aussi parce qu'il y avait besoin d'avoir des références, pour le coup, de certains morceaux ou bien d'enregistrement. Et du coup, collecter des archives, etc. C'était une façon de convoquer aussi des choses entendues et sans les déformer, juste de les citer brutes. Et je pense que sur un spectacle comme ça, on cherche pas à avoir nous-mêmes une analyse de notre propre propos. On essaye de le livrer le plus brut possible. Et c'est ce qui fait aussi que le spectacle, tu parlais avant l'émission un peu de violence, ça le rend un peu violent parce que les scènes sont brutes. Il n'y a pas d'embellage métaphorique. Et du coup, le son, il contribue. Et ça fait partie de, quand on cite une émission de France Inter, tout simplement, c'est celle qu'on a écoutée dans la cuisine. Et ça, il n'y avait pas utilité de le déplacer. C'est ça qu'on veut.
Et moi, j'allais dire, ça permettait de convoquer en nous-mêmes des choses connues qu'on n'avait pas forcément analysées ou qu'on n'avait pas forcément rapprochées les unes des autres. En plus, cet inventaire permet, bien sûr, ne dit pas tout, mais il permet de réfléchir à. C'est-à-dire, bien sûr, Simone Veil n'était pas vraiment présente, mais beaucoup d'entre nous l'ont convoquée dans le souvenir. Et donc, à partir de ce rappel, aller rechercher des choses qu'effectivement on a entendues un jour ou l'autre, et pouvoir soi-même, parce que la culture, elle vient aussi de la nécessité d'avoir faim. Il faut découvrir cette faim pour y aller. Et donc là, ça donnait faim de se renseigner sur. Donc le choix, par exemple, Olympe de Gouges n'était pas là. Mais je suis sûre que beaucoup de spectateurs y sont retournés tout de même. Et c'est ce chemin, presque à l'envers, qui va faire en sorte que maintenant, nous, qui avons pu bénéficier de ces débats, de ce spectacle, nous-mêmes, on va pouvoir en parler de notre façon, parce qu'on aura pu, j'allais dire, se l'approprier pleinement. Là, on ne nous donne pas un résultat, on nous donne une possibilité de réfléchir et d'agir. C'est encore mieux.
Oui, et ça rejoint peut-être le projet initial de Théâtre Forum, c'est-à-dire favoriser la participation du public. Alors, on peut le dire maintenant que c'est terminé, mais le public se trouve tout autour de l'espace scénique, hein. On n'est pas avec les acteurs qui seraient en bas et puis le public en haut ou vice-versa. Et puis, nos inconscients collectifs sont sollicités dans la mesure où, eh ben oui, on a entendu cette émission à France Inter. Oui, on a entendu parler de Simone Veil, ou alors, enfin, je ne vais pas redire toute la pièce, mais à chaque fois, on reconsidère ce qui a été acquis dans nos inconscients individuels, mais qui appartiennent à l'inconscient collectif, c'est-à-dire celui des violences faites aux femmes, du féminicide dans un théâtre de marionnettes où on s'attend à ce que le monsieur, à la fin, prenne son fusil et tue sa femme, comme c'était à l'époque. Enfin, voilà ce que je disais. C'est-à-dire que à un moment, ça permet que les choses soient dites. Voilà. Il y a des choses qui sont inconsciemment acquises, peut-être même digérées. On a l'impression, bon, c'est comme ça, et qu'on ne pourra rien y faire. Et en fait, non. Ça permet de mettre des mots dessus et de susciter le débat.
Moi, je trouve, là, vous avez parlé du fusil. Ce fusil m'a posé un problème extraordinaire parce que je me suis dit, mais merde, il va quand même pas lui donner le fusil. Et donc là, ça refait penser à tout l'assujettissement que nous avons quand on nous donne un ordre. C'est aussi bête que ça, cette forme de fascisme. Rentrez chez vous, nous sommes en guerre et hop là, on ne cherche pas à comprendre, tout le monde y va. Et là, parce qu'un comédien est au milieu de la scène et sous l'éclairage, vous dit « donne-moi le fusil ». Et il est bien évident qu'il va la tuer. Alors déjà, le rouleau à pâtisserie. J'allais dire, s'il était dégourdi, le rouleau à pâtisserie, peut-être qu'il s'en serait sorti. Mais le fusil, et là on voit quelqu'un de tout à fait sensé donner un fusil. Donc ça nous fait aussi réfléchir à l'assujettissement. Mais il faut rester conscient 24-24, mais sinon on va tuer son prochain.
Oui, alors beaucoup de violence, hein, le fusil, un revolver aussi à un moment, qui est changé dans un bistrot. Et puis cette violence qui est évoquée dès le début par un premier texte que Stéphanie va peut-être nous lire. Scoop Manifesto de
Valérie Solanas.
Voilà, où il est question justement de la guerre, des mâles, des hommes, je préfère dire, voilà, des hommes mâles sur la terre, et comment on pourrait justement se passer, mais sans aucun problème justement, de cette virilité malsaine. Et ça vient juste après la scène des patates, hein. Donc au début c'est marrant, les enfants qui jouent à vouloir genrer des patates. Alors je sais pas si ce sont des enfants, mais on est dans l'ordre, comme vous le disiez aussi, hein, ce sont des adultes, hein, qui ont éduqué ces enfants au genre, hein. Et puis on passe tout de suite à cette réflexion où on rentre c'est le but de la tragédie grecque, hein, je pense, très vif dans l'aspect tragique de l'histoire qui commence, hein.
Bah c'est une Cassandre, en fait. Enfin, nous, on l'a entendu comme ça aussi, quoi, ce texte. C'est-à-dire qu'on pourrait le prendre comme un constat, mais c'est aussi dire tant que cette violence, tant que la guerre existera, tant que cette bêtise viriliste existera, ben voilà où ça nous mènera, nulle part. Son texte est totalement blasé. Enfin, y a pas une lueur d'espoir dans son texte. Et en même temps, on trouvait ça fort de commencer avec quelqu'un qui est totalement désespéré, parce qu'il y a quelque chose de totalement désespérant quand on travaille à ces questions, quand on voit l'ampleur, l'ampleur du travail à mener. Oui, on peut aussi s'arrêter et dire stop, là, on va dans le mur, puis c'est tout, quoi. On y est déjà, parce qu'en fait, c'est ce texte-là.
Quels sont les retours que vous avez eus ?
Comme il y a beaucoup de scènes, souvent, les premiers retours, c'est aussi « moi, j'ai aimé cette scène m'a parlé », voilà. J'allais acheter des légumes et Simon, le maraîcher des trois parcelles, me dit « oh là là, je suis toujours parmi, 3 jours après ». Alors souvent, c'est un peu de nos spectacles sont comme ça. On sort, après ça va à peu près, puis en fait après ils font cogiter parce que ça demande un gros travail au spectateur, même juste de digestion. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est super remuant. Il y a des gens qui ont dit ah ouais, mais j'aimerais bien que telle ou telle personne le voit. Il y a la MFR, les jeunes qui sont venus le voir, eux ont vraiment regardé comme plein de petits spectacles. C'est-à-dire, chaque scène, il la vivait intensément, mais dans l'humeur de la scène. Et comme on a des scènes comiques, ou voilà, sur Sardou, où on voit des femmes qui dansent en chantant être une femme, ils ont chanté aussi. Donc, ils ont vécu le spectacle comme ça, comme un grand train. C'est le grand 8, quoi. Selon les personnes, les retours sont très différents. C'est bien.
Vous l'avez vu ?
Ah oui, moi je l'ai bien vu sûr. Deux fois.
D'accord.
En 2022 et en 2000. Ah, ou deux fois
non,
cette année.
Non, deux fois cette année, d'accord. Puisque justement, ma réflexion partait du propos que je ne l'avais déjà pas vu à la création, moi. Donc là, je l'ai vu à la première et à la dernière.
Et quand vous disiez qu'il fallait justement transmettre du vocabulaire, transmettre des morceaux d'histoire justement aux générations, à toutes les générations, pour qu'elles puissent dialoguer entre elles, est-ce que vous pensez que cette mouture le permet par rapport à celle de 2019 ?
Alors là, je ne peux pas répondre, je n'ai pas vu l'autre. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est ce genre de spectacle qui nous manque. C'est ce genre de théâtre qu'il faut absolument promouvoir. C'est ce genre de propos qu'il faut savoir partager ensemble pour pouvoir avancer ensemble et bien comprendre que le but n'est pas la différence, mais la vraisemblance. La vraisemblance d'être ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, laisser tomber tous les paraîtres pour s'occuper de l'être. Et ça, le théâtre vivant peut nous y conduire immanquablement.
Et peut-être préciser aussi, par rapport à ton propos, Hélène, que le spectacle a été joué dans le cadre d'un festival qui s'appelle Ici aussi. Et je pense que plus que la nouvelle version, c'est le fait qu'il y ait un festival avec des temps différents, des ateliers, des temps de rencontres, de discussions autour justement de ces représentations de Tu n'es pas seul, qui a pu tendre la main vers les spectateurs et spectatrices pour qui c'était peut-être un peu court en 2022 quand on a joué les premières fois. Je pense que ce festival a permis ça aussi.
Avec, oui, plein d'animations, d'ateliers qui étaient proposés à l'échelle du territoire. Quel avenir pour ce festival ? Parce qu'on en veut encore. Effectivement, oui, ce sont des choses dont il faut parler, des idées qui doivent se propager.
Alors, moi, je pense que beaucoup de gens leur ont demandé, c'est quand le suivant ?
Mais oui.
Je suis persuadée que tout le monde s'est dit, bon, alors, la prochaine fois, c'est quand ?
Oui.
Eh bien, en fait, on y réfléchit, on se demande si l'idée ne serait pas de garder le principe de ce festival, c'est-à-dire avec... Parce qu'en fait, ce festival, il a été très long. Hein. Il a commencé le 13 mars, il a fini le 19 avril. Il y a eu 7 lieux, 7 villes dans lesquelles ça a eu lieu. Il y avait plein de partenaires, des centres sociaux, des bibliothèques. Je vais en oublier forcément, la MFR, un resto associatif, etc. etc. Et je crois qu'en tout, c'est 16 événements. Enfin, c'est énorme. Le principe du festival, on va le garder. Et l'idée, pour que ce soit tenable, c'est peut-être de changer de sujet à chaque fois. De prendre un sujet de société, de s'en emparer. Et on reviendra probablement à ces questions, mais pas immédiatement. Peut-être que là, on partira sur l'écologie, pourquoi pas, puisqu'on a envie de créer un spectacle qui parle de ça. Et cette fois-ci, ce serait un festival, ici aussi, l'écologie. Avec l'idée que ce soit, on n'a pas de spectacle sur l'écologie, mais que ce soit un point de départ cette fois-ci d'un spectacle.
Une sorte de convergence des luttes revues par le théâtre, non ?
Bah ouais, c'est ça. Il y a un moment, il y avait eu la région avait organisé un tour, c'était de démocratie participative, et on avait trouvé ça super chouette. On avait accueilli, on avait discuté une après-midi. Tout le monde avait dit, bah ouais, c'est génial, il faut reconduire ça. Et après, c'est posé la question du comment. Est-ce qu'on se retrouve une fois par mois au théâtre pour en parler ? On se donne des sujets ? Comment on s'y prend ? Et comment un théâtre peut s'emparer de ça aussi ? Parce qu'en fait, jusqu'où on va ? Et comment ? Et je trouve que par ce festival, finalement, je trouve qu'on arrive à quelque chose... qui serait de l'ordre de cette démocratie participative. Il ne s'agit pas juste de savoir descendant, il s'agit aussi de faire des choses ensemble, d'en discuter, d'ouvrir des possibles et sur des thématiques différentes, quoi.
Ça me revient maintenant. Je ne voulais pas oublier d'aborder aussi la question de l'image. Donc au cours de cette pièce, on découvre comment justement les sons médiatiques peuvent... influer, voire même conditionner nos psychés intérieurs, nos fonctionnements intérieurs, parce qu'on entend à la radio, à la télévision, etc. Et la question de l'image aussi, il y a deux fois, alors je pense, à un moment, il y a un morceau de Philip Glass, The Photographer, on voit plusieurs personnes, elles ne disent rien, par contre, on est vraiment sur de l'image. Et puis une autre avec la liberté guidant le peuple et les fémènes. Là, on est encore sur de la pure image, ça ne dure pas longtemps. Hein. Enfin, le photographeur, ça dure un peu plus longtemps. Mais vraiment, l'image, juste de l'image, en fait.
Bah, c'est un procédé qu'on aime bien, qu'on utilise souvent. La citation de tableaux, alors ça peut être des tableaux classiques. Ça peut être juste citer une image sur scène. Parce que cette image, voilà, les images de fémènes, on les a vues dans la presse. Où là, donc pour le coup, l'image de Femen est citée directement. Et je veux dire, le sens est un peu univoque avec le... Enfin, je ne sais pas comment dire. Est raccord avec le sens. En revanche, l'autre scène que tu évoques sur les féminicides, en fait, c'est l'album photo d'une famille joyeuse, ordinaire. Parce que en fait, souvent, quand il y a des féminicides, il y a aussi des belles photos de familles heureuses. Et c'est aussi une des difficultés, c'est que souvent, de l'extérieur, les violences, on ne les voit pas. Puis on se dit, bah oui, mais regarde, ils sont heureux. Les enfants, ils font de la musique ou je ne sais pas quoi. Enfin, on va se raccrocher à des photos, à des choses comme ça. Mais en fait, la violence, pourtant, elle est là.
Et on ne la voit pas, tu dis de l'extérieur, mais des fois elle perdure et s'installe de façon terrible parce qu'on ne la voit pas de l'intérieur non plus.
Oui, souvent ou parce qu'on décide de ne voir que les photos,
belles photos. Toujours le paraître. On sauve sa peau en paraissant heureux. Et en fait, pour sauver sa peau, faut pouvoir se dire à soi-même Non, ça ne va pas. Je suis malheureux. Ça ne va pas. Je ne me sens pas comme ça. Je ne suis pas à l'aise. Je viens de m'en prendre plein la figure. Ça ne peut pas durer.
Et, c'est vrai que
et alors là, c'est l'échec. C'est-à-dire être obligé de dire à son père, sa mère, son voisin, « Eh ben voilà, je suis une pauvre fille. Ma vie de couple est ratée. » Mais c'est en disant ça qu'on devient un être humain debout. Mais le paraître a pris le biais comme à l'ordinaire.
Et souvent, on va se raccrocher sur « mais bon, c'est dur, mais on passe de bonnes vacances. » Mais des fois, sur les bons moments, en fait, qu'on va, comme tu dis, le paraître va prendre toute l'apparence. Et du coup, c'est l'idée de cette scène. Donc, du coup, l'image est très présente. Et cette fois-ci, contrairement à la fémène, c'est regarder ce qu'il y a derrière. Ce que ces images ne montrent pas, en fait. Ce qu'elles ne montrent pas, là, pour le coup, c'est la narration. Et ça vient contredire l'image. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on pense que c'est un des ressorts assez puissants, en fait, dans les phénomènes d'emprise.
Oui.
C'est de s'accrocher à ce qui fonctionne, à ce qui va rassurer. Et puis le reste, on le met sous le tapis. Sauf que ce qu'on met sous le tapis, c'est aussi quasiment une victime par jour, quoi.
Et oui. Et puis, à l'heure des réseaux sociaux, oui, la place de l'image... est importante, hein, évidemment, du son et de l'image, notamment chez les jeunes. Et on pourrait presque penser à une pièce qui aurait été faite pour les jeunes, parce que ça ferait presque penser à des réels ou des shorts, ou je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui s'enchaînent un petit peu et qu'on va regarder comme ça les uns à la suite des autres, sans qu'ils aient forcément de rapport les uns entre eux, un peu comme ce que consomment aujourd'hui les jeunes sur TikTok, Instagram, etc.
C'est vrai qu'on ne l'a pas créé comme ça parce qu'on a pris le fil de la tragédie. Mais je te disais au début, tu vois, c'est comme un enchaînement de clips.
Oui, oui, oui.
Et c'est vrai que les jeunes ont vraiment aimé le spectacle.
C'est très rythmé.
Et que ce soit les jeunes de la MFR, il y a eu des jeunes de la mission locale ou des spectateuristes qui sont venus avec leurs parents. Et ça leur a parlé. Et je crois que la juxtaposition de scènes courtes comme ça leur pose pas de problème, en fait.
Non, bien sûr, et oui. Et puis, ça permet aussi de leur montrer que le théâtre est plus moderne que jamais aussi, par les sujets qu'il traite et puis aussi par la manière dont il les met en scène. Vous en êtes bien tiré encore une fois, les minuits. Non, mais c'était super. On va reparler un peu plus tard dans cette émission des actualités à venir pour la troupe. J'espère qu'on va pouvoir avoir une lecture de Scoop Manifesto par Stéphanie. On devrait également accueillir deux jeunes, Victoire et Léa. Et puis, on parlera aussi de la programmation à venir. En ce moment, peut-être juste quelques mots là sur Jardin et Poésie.
En ce moment, en ce moment même, au Théâtre des Minuits, on accueille un stage pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans. Et le thème, c'est jardinage. Donc, ils vont jardiner dans le grand jardin et poésie. Et donc, créer en 4 jours un spectacle qui rassemble différents poèmes.
Et vous, Hélène, alors, qu'est-ce que vous faites au minuit en tant que bénévole ?
Eh bien là, pour le coup, je jardine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis venue désherber. Mais c'est ça, il faut désherber pour y voir clair, dans tous les sens du mot et pour toute chose.
Et ça commence déjà à être de la poésie. La poésie, vous aimez aussi ?
J'aime. Peut-être même que j'en écris un peu.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette rencontre avec la troupe en 2022, m'avez-vous dit ?
Alors, cette rencontre avec la troupe a été facile, puisque mon fils est le mari d'Arnaud. Donc, en fait, je suis la belle-mère de la troupe.
Dont Arnaud avait parlé à l'ouverture de saison, la fameuse belle-mère qui avait influencé.
La belle-mère, c'est moi.
D'accord.
Et c'est ça, maintenant, être la belle-mère ou ne pas être la belle-mère. Donc, moi, je suis complètement la belle-mère.
Ben oui, on n'a pas le choix, les enfants, ils font... Ben voilà, hein. C'est comme ça qu'on se retrouve grands-parents, beaux-parents.
Mais d'ailleurs, je les remercie. Parce que finalement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer comme ça, très joyeusement, à toutes ces aventures, dont finalement, à la retraite, avec mes 67 ans, je pourrais être complètement privée. Et là, je me sens en plein milieu de l'effervescence, de la jeunesse, de l'actualité, et j'en suis fort contente.
Oui, parce qu'alors on va le rappeler à nos auditeurs auditrices, hein, je vous invite à retrouver l'émission qui avait été faite au cours de l'enregistrement de Une Algérie, et c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises, oui, où on parle un peu plus de la troupe des minuits. Mais la troupe des minuits, alors c'est du théâtre bien évidemment, c'est aussi un grand jardin, c'est une roseraie, c'est une tour en cours de rénovation, une tour de quel siècle déjà ? 15e siècle. Ce sont des chantiers, des stages, des ateliers, j'oublie des choses, des partenariats forcément avec d'autres acteurs RIS du territoire. C'est tout ça, on ne va pas refaire l'émission qu'on avait faite il y a quelques années. Et puis on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. Je suis à présent en compagnie de Victoire et Léa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, voilà, vous étiez aujourd'hui, en ce mardi 24 mai, au Théâtre des Minuits. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, auditrices, pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites avec la troupe des Minuits ? Léa.
Moi, je suis cette semaine en stage... pour faire du théâtre et du jardinage. C'était un stage qui a été proposé par la compagnie. j'ai participé au spectacle un petit peu en bénévolat, tout ça. Et j'ai regardé la pièce. Voilà.
Et on va y revenir. Et vous, Victoire ?
Je suis en service civique au Théâtre des Minuits depuis le mois d'octobre. Et donc, je suis là tout le temps et j'ai joué dans la pièce.
Et vous faites quoi en service civique ? C'est quoi votre mission ?
Tout. Je fais principalement de l'animation parce que c'est ma spécialité, mais en fait, je fais dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là.
D'accord. Oui, vous êtes animatrice alors ?
Pas officiellement encore.
D'accord. Mais toutes les deux, vous faites un peu de théâtre ?
Oui.
Un petit peu, d'accord. Vous vous intéressez au théâtre ?
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur donc la représentation de cette pièce « Tu n'es pas seul » qui a été représentée, donc il y avait le 13 avril, le 6 avril et je crois que c'était le 30 31 mars.
30 mars.
Le 30 mars, voilà. Vous l'avez vu?
Oui.
Bah, du coup, je jouais dedans.
Alors, c'est peut-être différent quand on joue dedans. Vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'était...
Vos premières impressions.
C'était intéressant, surtout de jouer dedans, d'être dans le personnage. Après, il y avait beaucoup de références dans le spectacle que j'ai pas eues, que du coup j'ai connues à force des répétitions.
Faut savoir aussi que il y a eu le spectacle, mais avant il y avait un repas et des petites animations, et c'était pendant la soirée, c'était vraiment sympathique. J'ai passé une très bonne soirée et le spectacle était vraiment riche. Effectivement, il y avait plein de références littéraires, artistiques, qui nous ont présentées à la fin du spectacle. Donc ça nous a permis de mieux comprendre certaines choses qu'on n'avait pas tout de suite en premier. Mais si je pouvais dire quelque chose, un mot sur ce spectacle, c'est vraiment que c'était très bien réalisé et complet.
Alors, oui, je suis plus âgé que vous, donc moi, je ne vais pas faire style, même à la radio ça ne se voit pas, mais les auditeurs, auditrices, certains me connaissent. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses, alors c'est marrant, vous dites la référence, les jeunes ils disent la ref, quoi. Ouais, j'ai pas la ref, est-ce qu'on avait la ref? Mais du coup à la fin on pouvait trouver les références. Hein.
Oui.
Et j'ai trouvé que les tableaux s'enchaînaient un peu à la manière de short ou de réel, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Un petit peu, on swipe très vite, paf, oui. Et hop, de tableau suivant, qu'est-ce que vous en avez pensé du rythme de cette pièce?
Je trouve que même s'il n'y avait pas vraiment de cohérence entre les scènes, il y avait quelque chose qui nous accrochait et qui nous incitait à rester présent, à ne pas se lasser dès la deuxième scène. Et quand j'en ai parlé avec Mishka, qui est l'une des personnes qui a joué cette pièce, il nous a expliqué qu'il s'était inspiré d'un schéma littéraire grec, dont j'ai oublié le nom.
La tragédie, il nous en a parlé tout à l'heure.
Et qu'ils avaient utilisé un rythme un peu pour tenir le spectateur jusqu'au bout en fait, du spectacle, pour pas qu'il décroche. Quoi.
Et oui, il y a toujours une intensité émotionnelle qui fait qu'on reste d'un tableau à l'autre. Mmh. Je pense que c'est une pièce, c'est ce dont on parlait avec Hélène et Mishka, qui suscite le débat. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous, avec des personnes plus âgées que vous, par exemple, ou même des personnes de votre âge? Est-ce que vous pensez que ça permet justement de poser le débat sur ces questions-là?
Oui, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents qui ont vu la pièce, et ils sont pas forcément d'accord avec ce que moi j'ai ressenti, parce qu'ils ont quasiment rien compris à la pièce. Parce que c'est pas forcément des gens très avertis sur le sujet, et pareil pour eux, ils avaient beaucoup de références qu'ils n'avaient pas. Donc c'était un peu compliqué pour eux de tout comprendre.
Y avait ma sœur et ma mère qui étaient là avec moi au spectacle. J'en ai pas vraiment parlé avec d'autres personnes. C'est plus resté entre nous, mais on a au moins parlé pendant 3 jours. Ça nous avait vraiment marqué. On a reparlé des scènes qu'on avait vues. On a dit que oui, c'est un sujet actuel parce que il y a toujours des inégalités entre hommes et femmes. Ça a été vraiment enrichissant, en fait. On a parlé longtemps.
Vous aussi, c'est enrichissant avec vos parents, les échanges?
Ça m'a permis de voir qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Mmh. Et donc, maintenant, je peux un peu plus les aider. Enfin, essayer de leur faire comprendre les choses, parce que je sais que ma mère... Elle n'est pas du tout dans le féministe. Elle est très, elle est dans un schéma très patriarcal, je trouve. Et elle ne s'intéresse pas du tout à tout ça.
Alors, on n'est pas là pour juger les personnes, hein, bien évidemment.
Oui.
Mais c'est ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est peut-être qu'elle met en lumière les différences de connaissances de ces refs, de ces références justement qui sont faites dans l'histoire et dans cette géographie française quand même, parce que ça se passe en France, hein, globalement. On remonte jusqu'à l'histoire de Molière et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, peu de choses ont changé concernant les féminicides, concernant les discriminations dont peuvent être victimes les femmes, toutes ces questions aussi de l'ordre biologique intersexe, qu'est-ce qu'un intersexe, peu de personnes le savent et qu'il y a encore beaucoup à faire. On a échangé avec Hélène et Mishka et on se disait qu'il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que jeune ?
Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès vis-à-vis de tout ce qui est égalité homme-femme, avec la montée du féminisme dans les années 50-60 à peu près, où c'était vraiment tout début, même si on a eu déjà des grandes précurseuses dans ce mouvement plus tôt. Mais c'est vrai que tout ce qui est plus égalité qui tire sur le sujet de l'homosexualité, des personnes intersexes, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça reste peu médiatisé et qu'on n'entend pas souvent parler, même à l'école, de ce sujet-là. Et que je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il y a vraiment le plus à faire encore aujourd'hui.
Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, tout est un peu en train de redescendre. Il y a beaucoup plus... je ne saurais pas trop comment expliquer, mais le combat, il a évolué. On a plus de droits qu'avant. Mais maintenant, j'ai l'impression que... les machos, les... Enfin, tout le schéma un peu des années 50 est en train de revenir à... entre guillemets, à la mode.
Alors, quel schéma ? Le schéma féministe ou machiste ?
Machiste.
Machiste, d'accord. Quand vous disiez que c'est en train de redescendre, vous pensiez par exemple au hashtag, là, le fameux hashtag balance ton porc ?
Non, en fait, par exemple sur TikTok, je vois de plus en plus de vidéos de femmes qui disent pourquoi ne pas être féministe ? Pourquoi il faut écouter les hommes ? Ce genre de choses.
D'accord. Donc, attention, les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, comme la télévision, la radio, on reste toujours critique par rapport à l'exposition aux médias. Je retiens le conseil de Léa envers les professeurs qui nous écoutent. Hein. Voilà. Il n'y a peut-être pas assez d'éducation aux questions de genre, c'est ça que j'ai compris.
Oui.
Au collège, au lycée.
C'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment abordé. Je dis pas vraiment, pour pas dire pas du tout, parce que cette année, en espagnol, on travaille sur un sujet sur l'homophobie dans le sport. Donc je peux pas dire non plus qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que c'est plutôt rare en fait.
Et le théâtre est un lieu où on peut librement parler de ces sujets-là.
Oui.
Comment est-ce que vous avez découvert l'une et l'autre, la troupe des Minuit ?
C'est mon père qui m'en a parlé. Parce que je cherchais à faire un service civique. Et donc, il m'a parlé de la troupe. Il m'a dit, ça rentre complètement dans tes valeurs, dans ce que tu aimes. Donc, je me suis un tout petit peu renseignée. Mais en fait, j'ai foncé direct pour faire ma candidature.
Moi, j'habite à Malesherbes. C'est à une trentaine de minutes d'ici, même pas. Oui, 25 minutes à peu près. Et j'en avais déjà entendu parler quand j'étais plus jeune. Via le centre aéré de l'Envolée de Plumes et certaines amies qui avaient vu des spectacles ou fait des stages dans la troupe de la compagnie des Minuit. Et vous savez, il y a les petites affiches qui sont